installe-toi, l'émission démarre ce soir. Angélique t'a réservé un florilège d'étincelles. Du suspense, de l'amour, de l'émotion et de la passion. Fais partie de l'aventure dès maintenant sur idfm98.fr et par téléphone 01 34 12 12 22. Appel non surtaxé. Mesdames et messieurs, voici Angélique.
Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui viennent nous retrouver ou ceux qui viennent nous rejoindre, ceux qui savent que l'émission Étincelle est actuellement en train de démarrer. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h en direct et j'ai l'honneur de recevoir pour la seconde fois une comédienne. Elle est non seulement comédienne, elle aime les beaux textes, elle aime les écrivains, elle aime les auteurs et en même temps les réalisatrices. Elle serait parfaite dans un jury du Festival de Cannes ou faire partie de la sélection du Festival de Cannes. On en parlait tout à l'heure hors antenne, il s'agit de Dominique Fraud. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Angélique, j'allais dire Géraldine. Comment allez-vous ?
Mais très bien. Alors, vous êtes une passionnée de cinéma, des beaux textes, et puis vous faites partie de... Vous avez une actu de folie sur la rentrée, et on a beaucoup de chance de pouvoir vous avoir aujourd'hui, parce qu'en même temps, cet après-midi, vous avez commencé une répétition. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu plus ?
Oui, que je dire avec les années qui passent... On est conscient de plus en plus de choses. Alors, curieusement, avant une répétition, j'y allais uniquement joyeuse, ouverte à la rencontre. Là, aujourd'hui, c'est plus, je ne sais pas, un excès de pensée avec les années qui viennent et qui fait que on pense aux autres, on pense à des tas de choses, un tas de choses qu'on peut pas résumer. Et du coup, on arrive un peu fatigué. Parce qu'on a, c'est comme si on avait imaginé avant tout les possibles et même ce qui est impossible.
Et alors, comment s'est passée cette répétition?
Ben, on a lu la pièce.
C'était une lecture, en fait.
C'était une lecture, voilà. D'accord. Donc, le plaisir de voir les gens, d'arriver dans la maison du metteur en scène, qui est également un auteur, et de le regarder en face de moi, parce qu'il a un parcours, si moi j'ai un parcours atypique, lui il a également un parcours atypique.
Est-ce que vous voulez nous dévoiler qui c'est?
Je veux dire son nom, il s'appelle Michel Alexandre, il a écrit... Le film qui s'appelle L627, il a également écrit Le Cousin. Puis il a fait plein de choses avant, puisqu'il a eu un parcours où... Enfin, si je peux me permettre de parler des autres, je sais pas d'ailleurs, je ne sais jamais si on peut se permettre de parler des autres. En tout cas, comme j'allais travailler avec lui, j'ai regardé un petit peu son chemin et... C'est un chemin super intéressant. Moi, j'adore les gens qui font pas toujours la même chose dans la vie. Et c'est pas qu'ils changent de choses. Ils ont un chemin qui passe par quelque chose et qui passe par autre chose et qui passe par autre chose. Apparemment, mais on sent que dans ce chemin qui passe par plein de choses, il y a une ligne droite dessous qui ne dépend pas de toutes ces choses apparemment différentes. C'est comme dans la mer, vous savez, dans la mer, et la mer est chaude ou froide ou je sais pas quoi, mais il y a des courants dessous qui restent froids et qui ne dépendent de rien. et qui restent à la même température. Vous rappelez pas quand on se baignait quand
bien
on
sûr,
était
bien
petit,
sûr, chaque année,
il y a
oui.
des trucs dans les pieds, tout d'un coup un courant froid qui arrivait, qui était d'ailleurs très agréable. Hein. Ben voilà, moi quand les gens changent de truc, apparemment on passe d'une chose à l'autre, je me dis pas qu'ils font quelque chose de différent. Je me dis que ils font quelque part la même chose qui prend une envergure. Qui continue à prendre de l'envergure, mais qui passe par des tunnels différents.
Alors, c'est ce que vous aimez voir, notamment dans... parce que les gens vous font confiance, puisque le ministère de la Culture a fait appel à vous pour une résidence à Chambord, c'est bien ça?
Oui.
Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'était? Comment ça s'est passé?
J'avais partagé plusieurs fois des choses avec le monsieur qui est à la tête de la programmation culturelle de Chambord, c'est-à-dire pas les sons et lumières, hein, mais la programmation culturelle de Chambord, qui est une personne qui fait connaître beaucoup d'auteurs, qui organise beaucoup de lectures à Chambord, qui sont faites par les auteurs eux-mêmes. Il a d'ailleurs invité des gens comme Yannick Kahenel, Jelinek, je sais qu'il voulait la faire venir, je sais pas s'il a réussi à la faire venir, un monsieur super qui est mort aujourd'hui, je crois. J'ai une journée dans les pattes qui fait que les noms des gens, j'ai jamais été forte pour
vous
les noms.
Vous avez une
gens.
Répétition.
Thomas
en fait.
Riboulet. D'accord. Riboulet. Mm-hmm. Voilà. Je crois qu'il a eu Riboulet à un moment, qui a écrit cette très belle chose qui s'appelle Entre les deux, il n'y a rien. Alors je sais que par exemple il a adoré ce livre de Jelinek qui s'appelle j'ai pas fait une liste de bouquins là pour venir vous voir.
Je vous prends un petit peu de cours aussi. Hein.
Un des derniers livres de Jelinek qui est absolument magnifique. Je vous retrouverai le titre qui a un titre. Il était sur le bout de ma langue, mais là il est reparti. Je vous le retrouverai tout à l'heure. Enfin bref, ce Yannick Mercoirol à la tête de la programmation culturelle de Chambord avec toute une équipe dont Mathilde et Alexandra font vivre à Chambord des festivals, des lectures d'auteurs, etc. J'avais rencontré Yannick Mercoirol quand il était attaché culturel à Chicago et on a collaboré à plusieurs reprises et puis un jour il a eu la tête de la programmation culturelle de Chambord, chose que je viens de dire depuis 4 fois, et il m'a demandé une première fois, Dominique, je souhaiterais te proposer le château de Chambord pour 4 soirs. Qu'est-ce que ça te dit? Et la première fois qu'il m'a proposé ça, j'ai répondu, mais qu'est-ce que vous voulez? Je le vous voyais à l'époque. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce cake? Un cake que je trouvais fort beau, mais que pouvais-je faire? Et on est parti.
Par cake, vous parlez du château de Chambord.
Oui.
D'accord.
Je lui ai répondu à ce monsieur qui me proposait. Que voulez-vous que je fasse avec ce cake? Et on est parti sur un livre absolument magnifique qui s'appelle L'éloge de la folie d'Erasme, un livre absolument magnifique, écrit il y a longtemps déjà.
Bien sûr.
Pourtant, je ne vous dirai pas quelle est l'année d'existence d'Erasme, mais je crois que c'était au moment où la littérature frôlait les mathématiques, commençait à avoir une espèce de logique infernale en elle, qui est à l'époque où aussi également, alors que l'eau dans les champs, et notamment dans les champs autour de Chambord, n'était pas encore canalisée, on commençait à canaliser dans des canaux, donc, les eaux. De façon à ce qu'elles ne se répandent pas comme des malades parmi les champs.
On va parler de 1467, la naissance d'Erasme.
C'est ça? Ah, vous avez Google, là,
oui.
Internet, d'accord. 1467. Ah, j'imaginais que c'était plus tard. Et donc, j'ai fait un montage et j'ai croisé cette écriture.
J'ai cru que vous aviez dit, j'ai croisé cet écrivain, je me disais, oh là là, vous faites pas votre âge.
Non, j'ai croisé cette écriture et qui était une, l'éloge de la folie, donc, et c'est pas l'éloge de la folie, les fous qu'on enferme, c'est justement l'éloge de la folie des fous qu'on n'enferme pas.
Il a écrit en 1511.
Voilà, d'accord. Et donc, j'ai l'éloge de la folie des fous qu'on n'enferme pas, c'est-à-dire la société est faite de lois et de tout ce que l'être humain, chaque matin, maintient pour tenir. Et ce maintien-là est fait de folie, d'une folie qu'on n'enferme pas. Et c'est de ça dont parle Erasme. Et j'ai croisé cette écriture avec l'Heptaméron qu'a écrit la sœur de François Ier qui vivait dans Chambord. Chambord qui était une ville, une sorte de ville, une sorte d'essai communautaire monumental. Voilà. Et j'ai croisé ça avec l'Heptaméron, donc, et je, comme toutes les choses que je fais réellement, sur le coup, je ne m'aperçois pas
de ce que c'est. L'Heptaméron a été écrit par Marguerite de Navarre.
Yes, yes. Exactement.
Qui elle est née en 492, donc ça correspond un peu à la même période presque.
Vous dites 492 ou 1492 1492. Hein, sinon François Ier, là, il serait pas premier. Hein. 1492.
Ah, je vois que même malgré une répétition dans les pattes, vous êtes vive quand même.
C'est vrai? Bon, d'accord. Je suis tellement naze que je fais avec ce qui vient, quoi. Hein. Donc ne vous étonnez pas, les écouteurs et vous-même, Angélique. Voilà, on verra bien ce qui va sortir. Hein?
C'est un petit peu... Donc, vous avez fait cette résidence à Chambord, c'est-à-dire, vous avez croisé donc deux textes, celui d'Erasme.
Alors, c'était pas... Ça, c'était... Ça, je suis en train, comme d'habitude, je remonte à très loin.
C'est quand ça, on j'adore me dit, quand vous dérapez.
Ce sont des détours infernales qui n'en finiraient plus. Oui. Donc, je suis remonté à ma rencontre avec Yannick Mercouarol, qui datait aux États-Unis d'une production qu'on a conduite ensemble, enfin que j'ai conduit moi, mais qu'il m'a tendu, mm-hmm. qui a été joué dans plusieurs universités, etc. Il m'a même amené à donner des cours à la grande université de Chicago. Et comme toutes les choses que je fais vraiment, au moment où je les fais, je ne me regarde pas du tout les faire. Et ce qui fait que il y a une espèce de mémoire en moi qui est bien au-delà de la chose que je fais. Et c'est 5 ans après que je me dis, mais comment j'ai pu tenir ce truc. De la même manière, quand je me suis retrouvé à Chambord à croiser ces deux écritures, Erasme et l'Heptaméron, et que je me suis réellement, mais au sens propre, fait le château. C'est-à-dire que le public était en bas, il y avait 300-400 personnes, et j'ai parlé de toutes les terrasses, et je me grimpais les escaliers du château de Chambord entre deux répliques, ce qui fait que les gens ne savaient pas d'où ils allaient me voir apparaître, et que des fois j'arrivais au dernier étage, et donc je courais tout l'escalier de Léonard de Vinci, la double hélice,
la double hélice,
pour arriver en un temps record là-haut, pour qu'il soit totalement surpris qu'alors qu'il venait de me voir quelques minutes auparavant au tout premier étage, à la première terrasse, là, le balcon magnifique, et que tout d'un coup, voilà, il me voit en haut, sous les étoiles, chanter, parce que j'ai chanté sous les étoiles, Elvis Presley.
Ah oui.
J'ai introduit une chanson d'Elvis Presley qui était une chanson absolument magnifique. Je pourrais pas vous la chanter, je me rappelle même pas son titre. Tout le monde la connaît et j'ai chanté Elvis Presley sous les étoiles. Bref, j'en arrive à... on a fait comme ça une autre production à Chambord avec Yannick, Erasme, Heptaméron. Puis, je suis retourné aux États-Unis où j'ai monté une autre histoire avec Hans-Peter Claus. C'est moi qui ai monté l'histoire, c'est moi qui ai inventé de tendre la main à Hans-Peter Claus, qui m'a accompagné là-bas dans une histoire allemande. Voilà, Hans-Peter Claus passait par là. Je me souviens, je l'ai rencontré à la poste et je lui ai dit, ça vous dit pas partir à San Francisco pour la correspondance, c'est là en Bachmann. Voilà, j'ai installé un truc. En une minute, j'ai levé des gens là-bas. Je sais pas s'ils avaient besoin d'un partenariat avec l'Allemagne, mais c'est fait. Et il avait l'air un peu triste ce jour-là. Et bref, il m'a suivi. Et on a fait l'histoire ensemble qui s'est remarquablement passée. Or, il s'avère que de l'autre côté... j'ai fait tout ça en anglais à chaque fois que je suis aux États-Unis. De l'autre côté, Yannick Mercouarol avait lu deux livres dans l'année qu'il l'avait scotché. C'était d'une part cette correspondance de Ingeborg Bachmann et Paul Celan qui venait de sortir en français, alors que moi j'avais rencontré ce livre en allemand et que je l'avais lu et parcouru en allemand. J'adore lire dans une autre langue que la mienne parce que ça donne une raison de lire plus lentement, parce que quand même je possède pas l'allemand comme le français. Et quand tu lis lentement, tu remontes à la source de l'écriture, comme les saumons remontent le courant.
Mais Dominique Fro, vous lisez, vous Vous avez combien de langues? Vous parlez et vous lisez combien de langues?
Moi, j'adore les langues, c'est comme la musique. Et puis en plus, elles fonctionnent, aucune ne fonctionne pareil. Et dans leur fonctionnement, elles disent un état d'esprit totalement différent.
Alors combien?
Bon, ben moi, si je voulais, j'apprendrais plein de langues. Mais j'ai pas le temps. J'avais même à un moment commencé le japonais quand j'étais jouée à Tokyo.
Donc les lituaniens.
Je parle le russe.
Oui.
L'allemand, le français, l'anglais, totalement courant l'anglais. Parce que mes parents m'ont envoyé à 10 ans aux États-Unis et je suis revenue, j'arrivais plus à parler français. Au début, leur a plu, puis au bout d'un moment, ils ont commencé à flipper. Donc, c'est devenu « tu arrêtes, Dominique », etc. Voilà, l'anglais, le russe, l'allemand et le français. Et sinon, oui, là, je suis allé récemment bosser en Lituanie et c'est vrai que je me suis appris sur le bout du doigt 3 pages en lituanien. Et j'ai compris le lituanien.
Oui, mais parce que à la base, vous êtes aussi allé voir sur Translator.
Ah non.
Du tout.
Non.
Vous avez pas fait d'antisèche?
Ah non, je vous ai raconté l'autre fois et c'est carrément vrai. J'ai appris un poème en lituanien sans rien comprendre, mais petit à petit, j'ai fait ce voyage.
Peut-être parce que vous aviez des bases aussi en allemand et en russe. Ça a dû
Mais les racines des mots, on est tous des êtres humains, donc on a fait naître le langage. C'est la seule chose qui nous sépare des animaux, c'est qu'on a le langage. Sinon, on est des animaux. Donc, ce truc qui fait qu'on a commencé à faire bouger notre bouche dans un sens, avec du sens, et c'est venu de la même racine. Donc, bien sûr que s'il y a un endroit où les langues, c'est comme un bouquet de fleurs, ça se rejoint à la racine.
Ce que je vous propose, Dominique, parce que vous êtes passionnante, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, vous êtes bien dans l'émission Étincelle sur Radio Anguin, IDFM 98, c'est la radio du bien-être. Ici, on parle culture, on parle aussi métaphysique. J'aimerais bien qu'on parle de métaphysique ensemble, une autre fois peut-être. En tout cas, nous allons nous écouter Mission Impossible, parce que rien n'est impossible ici, à la radio.
On va écouter Mission Impossible.
Mission Impossible, oui.
La bande-annonce?
Peut-être pas, mais en tout cas la musique de Mission Impossible, le thème.
Alors, est-ce que je peux dire que l'impossible n'est qu'un possible inexploré.
Voilà, alors si on est parti comme ça, on va s'écouter Mission Impossible, puisque l'impossible n'est que le possible inexploré. C'est bien ça?
N'est que l'impossible n'est qu'un possible inexploré.
Voilà, donc Dominique Fraud, mesdames et messieurs, en direct avec nous jusqu'à 22h. Vous êtes en direct sur Radio Anguin, IDFM 98, c'est la radio du bien-être. Eh bien, on a du bien-être ce soir dans l'émission Étincelle. Je reçois Dominique Fraud. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Alors, on parlait de cette résidence à Chambord. On a fait un petit détour. On est parti aux États-Unis, Mission Impossible, et nous revoilà à Chambord. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous rajouter ?
Alors, je voulais juste finir parce que je suis infernal avec mes détours. Mais j'en fais un autre détour juste avant, une parenthèse. Mission Impossible, à propos de Mission Impossible et de l'impossible, juste vous dire que partout, il y a des parcelles d'introuvables, en nous surtout, et il faut tenter l'impossible, peu importe de l'atteindre, on atteint quelque chose en chemin, et s'il n'attend pas, il ne découvrira pas le hors d'attente, qui est chose introuvable et vers quoi il n'y a pas de passage.
Et là, vous nous avez cité
un monsieur.
Oui. C'est quoi votre livre ?
Ça s'appelle La brûlure du monde.
Mmh.
Voilà. Je pense que c'est un... Il y a dedans quelques mots importants.
D'accord. Et c'est quel est son ouvrage ?
Son ouvrage, vous voulez dire quoi ?
Le livre que vous avez s'appelle comment ?
Il s'appelle « La brûlure du monde ». Parce que le livre dit « Il faut brûler de cette brûlure qui est celle, la même, que le monde utilise pour se détruire ».
Donc en fait, il faut brûler d'un feu sacré pour accomplir des choses ?
Oui, il faut être au plus près de ce qu'on sent comme une juste transmission de l'effet que le monde nous fait. Et on sent aussi comment on peut ressentir le monde et comment on voudrait pouvoir agir sur le monde et comment le monde agit catastrophiquement sur les individus.
Alors,
ça, c'est faire l'acteur pour moi.
Oui, mais pour vous, l'acteur, c'est aussi être ensemble et être aussi pour les autres. Alors justement, je vous ramène à Chambord.
Ah oui, Chambord. Et donc, à un moment, Yannick m'a proposé, en accord avec le ministère de la Culture, moi qui lui parlais de plus en plus d'auteurs, de souhaits, de, je crois, on avait parlé quelques mois auparavant d'un souhait de moi de passer un certain temps à Chambord à bouquiner une centaine de bouquins pour dire qu'est-ce qui était plus utile qu'inutile dans ces bouquins. Pour nous, aujourd'hui, est-ce qu'il y a dans ces bouquins quelque chose de crucial ? Je voulais détecter du crucial qu'il est plus important de lire ou d'entendre plutôt que de ne pas entendre. Est-ce que les livres peuvent, je voulais détecter, me reprouver que les livres peuvent quelque chose pour nous. Et puis du coup, tout d'un coup, j'ai reçu une proposition de Yannick en accord avec le ministère de la Culture, parce que je crois qu'il avait fait cette proposition, que la proposition que je lui avais faite moi, et que je passe un temps à Chambord dans quelque chose qu'on appelle résidence, et qu'au cours de cette résidence, je fasse une quarantaine d'interventions dans les prisons, médiathèques, bibliothèques, fac, conservatoires, collèges, ZUP, etc., trucs comme ça, et j'ai travaillé pendant 2 mois, parce que 3 mois je ne pouvais pas, mais j'ai réellement fait ça avec cœur.
Combien de temps ?
2 mois.
2 mois, c'est
mais
énorme.
Mais je suis restée à Chambord sans repartir à Paris, et j'ai travaillé comme une malade.
Vous avez habité dans le château ?
Et j'ai travaillé comme si je faisais une enquête. J'ai habité au cœur du château. J'étais au cœur du château. Tous les matins, je me montais l'escalier Léonard de Vinci, là, 36 fois, non pas 36 fois, 10 fois pour faire mon sport. Et les gens qui font le ménage à 7h30, la première fois, je me suis dit, merde, bon ben, je monte d'un côté de l'hélice et puis je redescends par l'autre, comme ça, ils vont pas me voir. Ah, ils ont compris tout de suite que j'aimais l'escalier à hélice, là. Voilà. Et donc, j'ai fait 40 interventions, elles ont toutes été... Il n'y en a pas une que j'ai pas aimée. Elles ont toutes été très différentes.
Est-ce qu'il y a une captation ? Est-ce qu'on a une trace de vos
interventions ? Oui, parce qu'il y a France 3, tout d'un coup, qui m'a suivi. À la prison. Ils sont venus faire un reportage à la prison et qui a été un et qui après ils m'ont invité à faire un plateau télé là-dessus. Voilà. Et donc à la suite de ça, j'ai eu un coup de bigot d'un maire d'un chef-lieu de canton dans la région là,
Saint-Aignan. Justement, j'allais vous en parler et si vous me permettez, je vais vous lancer. Vous avez du coup vécu une expérience que vous allez nous raconter puisque finalement elle s'est conclue par le parrainage d'une médiathèque qui porte votre nom et qui a été inaugurée au mois de juin de cette année. Alors, est-ce que vous voulez nous raconter justement cette histoire, Dominique Fraud ?
Ben donc, voilà, je reçois un mail d'abord et puis nous sommes rentrés en contact. Un mail qui était tourné d'une telle façon qu'après j'en ai reçu un second. Enfin bref, j'avais le maire d'un chef-lieu de canton qui de je sais pas si c'est canton ou je sais pas quoi qui me proposait qui me relatait qu'ils avaient depuis des années du mal à faire accepter l'inauguration d'une médiathèque qu'ils souhaitaient depuis longtemps et que à la suite de mes interventions quelque chose s'était passé entre les lycées et de cette région et cette ville qui faisait que le conseil municipal aujourd'hui acceptait l'ouverture d'une médiathèque et il me conviait. Il me proposait
en fait,
de
vous
parrainer
avez...
cette oui. médiathèque. Et il le disait d'une telle façon que ça me paraissait tout sauf le truc officiel ou entre officiel, on se fait des pots de machin, je sais pas quoi. Voilà.
Des pots de machin, vous voulez dire des courbettes et des ronds de jambes?
Bah je sais pas, on s'échange un machin parce que ça va faire un partenariat ailleurs, parce que j'ai ceci. J'entendais tout à fait autre chose. Il avait une manière de me proposer ça qui allait totalement avec
moi. En fait, il était dans la sincérité parce que finalement vous avez échangé avec des adolescents, des collégiens et des lycéens.
Ben oui, c'est-à-dire que petit à petit, notre échange par mail, par téléphone, s'avérait de plus en plus, on va dire, sincère, comme ça, parce que je suis un peu fatigué ce soir. C'est-à-dire, j'avais pas l'impression que c'était une magouille officielle, quoi. J'avais l'impression qu'il avait entendu quelque chose chez moi de qui correspondait à leurs souhaits.
À la culture, à la soif de connaître, d'apprendre, de comprendre, de partager, d'échanger.
Un vrai truc.
Avec
un vrai
les
truc.
Mots du quotidien aussi.
Un vrai truc. Je sentais un vrai truc. Et tous les échanges qu'on a eus devenaient de plus en plus un vrai truc. Donc j'ai même pas eu à prendre de décision. Ça s'est fait tout seul. Et il m'a envoyé une corbeille de foie gras. Moi qui ne mange jamais de foie gras. Mais petit à petit, j'ai commencé à la disséminer chez des copains qui étaient carrément contents.
Oh bah oui.
Le pinard et tout ça, moi qui ne bois plus depuis un certain temps. Bref, et on a petit à petit bâti ces deux jours d'inauguration et ils m'ont fait intervenir dans les lycées de la région. J'ai donc rencontré les proviseurs, la directrice d'académie,
la directrice académique des services de l'éducation nationale, c'est Valérie Baglin-Legoff.
Oui, oui.
Pour elle, c'était important de démystifier les sites, les activités littéraires et artistiques, parce que ce sont des outils de développement personnel et surtout d'inclusion sociale, ce qui va bien avec votre envie de vivre ensemble. C'est tout à fait dans votre optique.
Oui, oui. Il y a eu avec cette dame et avec les deux proviseurs du lycée, et bien sûr avec le maire. Alors, je suis si fatiguée.
Alors, il y avait Sylvie Barra, qui est le principal du collège.
Éric Carnat. Tout d'un coup, j'étais fatiguée et je me disais, mais comment il s'appelle ?
Éric Carnat et aussi Olivier Bijard.
Olivier Bijard, proviseur du lycée.
Voilà.
Hein ? Et le sénateur, il s'appelle comment ?
Alors, attendez que je vous le retrouve.
Parce que faut vous dire, sinon, auditeur, vous allez être scotché par cette fille qui sort des phrases incroyables. Elle est tout de même en train de regarder Internet, quoi. Parce que sinon, moi, j'ai l'air d'une bleue, quoi.
Je bon. M'adapte. Je suis animatrice, alors il faut bien que je vous soutienne.
En tout cas, voilà, je parlais de monsieur le maire qui s'appelle Éric Carnat. Bon, ce fut avec lui, avec sa femme, avec ses enfants, avec son sénateur, avec ses deux proviseurs de lycée pris mon scotché, vraiment. J'ai pas eu la sensation, bon, j'ai de l'espoir dans la vie, donc je suis obligée d'avoir de l'espoir, on est obligée. Donc j'entends les propos des gens selon l'espoir dont j'ai besoin, mais là vraiment il y a des moments où je me suis dit merde, je suis en train d'entendre des choses qui sont vraiment à la hauteur de mon espoir.
Et
ces deux proviseurs m'ont prononcé de ces trucs qui se sont avérés réellement se confirmer lors d'un dîner qu'il y avait chez Eric, de la même manière que cette dame, que Valérie, qui est directrice d'académie, pareil, il y a eu un contact incroyable. Le sénateur, ce fut moins des mots que il a prononcé, des mots qui m'ont très sensibilisé.
Mais vous étiez en larmes.
Mais écoutez, oui, j'en ai chialé de cette histoire.
Ben voilà.
Mais pourquoi? Parce que pour moi, c'était comme si on m'offrait une île. Et l'île, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas pour rester planté dessus, c'est pour naviguer.
En fait, ce qui vous intéressait aussi, c'est vous avez mis l'accent sur les différences qui séparent la nouvelle génération des précédentes. Ce sont des différences qui sont essentielles. Et vous avez affirmé à ces enfants, c'est-à-dire réaffirmer, par définition, sans passé, perméable à l'art du temps, la nécessité de conserver la littérature qui est un moyen de résistance. Ne pas aimer lire revient à accepter d'étouffer dans le monde.
Oui, c'est comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, un enfant qui a la tête dans un livre, il a le droit d'être ailleurs. Il a le droit d'être dans l'inconnu. Il est là, les parents sont rassurés. Et dans le livre, qu'ils le lisent ou pas, que les mots, parce que moi je sais, je me souviens, et quand je vois des spectacles, c'est pareil. Un spectacle qui me plaît, c'est un spectacle qui déclenche chez moi toute une envergure qui va bien au-delà de ce que j'entends, etc.
Dominique, vous êtes une défricheur de l'invisible.
Ouais, moi j'aime l'inexploré, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est-à-dire, en fait, je pense que le dépassement est frappé d'interdiction, alors que je pense que l'homme limité et connaissant ses limites peut flirter avec l'illimité. Je pense qu'on peut flirter avec l'illimité.
Donc, c'est pas parce qu'on est dans une condition humaine limitée que c'est comme si on était des êtres intemporels délimités par une réalité qu'on appelle le temps. Et vous voulez retrouver cette essentialité de chacun?
Bon, on va dire que c'est pas parce qu'on est dans un endroit clos que les choses se ferment. C'est pas parce que, justement, c'est pour ça, quand je vous dis on me donne une île. Une île, c'est quelque part un enclos. Eh ben, au lieu de penser c'est quelque chose qui va m'enfermer, je pense à la navigation que ça va me permettre. Et au retour, le retour est pour moi une chose essentielle. Partir, c'est la joie de revenir. Et revenir, c'est la joie de repartir. C'est, pour moi, la vie n'est faite que de ça.
Des allers-retours.
Revenir.
Et des explorations.
Voilà. Alors, vous avez. Et d'ailleurs, si je peux me permettre.
Alors, nous avons deux pages devant nous. Allons-y, je vous écoute.
Non, mais un tout petit peu ce que j'ai dit aux enfants.
D'accord.
Ou ce que j'ai souhaité dire à propos de la médiathèque et des livres.
Oui.
C'est qu'une perception figée masque le cours incessant des choses. La vie ne peut faire prévaloir l'obstacle en quoi se mue le passé. Le poids des générations mortes sur le cerveau vivant lorsqu'une autre heure est venue au cadran de l'histoire. Nos vies diffèrent non seulement de toutes les vies antérieures, mais presque d'un jour sur l'autre d'elles-mêmes. Elles sont devenues le siège d'une métamorphose continuelle, profonde. C'est miracle que d'un bout à l'autre de notre histoire, au travers de 1000 tentatives, court le fil de la reconnaissance et qu'une œuvre surgisse. Voilà. Je veux bien dire aussi que il y a des endroits de l'acteur qui font toucher des choses, genre, je ne mourus pas et je ne restais pas vivante. Juge par toi-même ce que je devins. Quand je cite des auteurs, c'est que je ressens des pieds à la tête le besoin d'écrire la phrase qu'ils ont écrite. Là, j'ai cité Pierre Bergoglioux, d'une part, et Et je viens de citer une phrase de Sarah Kane. Voilà.
Donc ça, c'est une partie du discours que vous avez prononcé à la médiathèque quand vous avez
participé. Une toute petite partie, oui.
Une toute petite partie. Alors, j'aimerais, parce que nous avons une actualité fournie à aborder ensemble. D'abord, vous avez des projets de tournage, c'est Meurtre dans le Morvan.
Oui. Alors, est-ce que ça vous ennuierait si je parlais d'abord de la première production qui arrive là?
Bien sûr. Alors,
ça vous ennuie pas si je déboîte?
Non, mais on va parler de tout. Il nous reste, nous sommes ensemble jusqu'à 22h et nous avons 25 minutes de bonheur ensemble.
Voilà.
Alors, je vous écoute. Nous vous écoutons tous. Nous avons les oreilles qui traînent par terre. On vous écoute.
Alors, vous avez
micro.
Du bonheur quand, juste à ce moment-là, je voulais parler de cette pièce qui s'appelle Bonheur au quotidien. Qui donc tout d'un coup se tend à moi un petit peu tout d'un coup.
Quelle en est la production?
Donc la production et l'accueil, c'est Denise Petit Didier du théâtre Donou, mm-hmm. en partenariat avec un monsieur qui s'appelle Jeff Gaillard, mm-hmm. Qui est donc le producteur, coproducteur. L'auteur est Florian Hessic, un jeune homme, je dirais comme ça, de 25 ans.
Vous savez, ça me fait penser à Raymond Radiguet, qui très jeune a fait des textes qui étaient magnifiques, et puis pouf, qui s'est évaporé dans la nature après.
Ah bon, il s'est évaporé dans la nature.
Oui,
mais Florian,
enfin, oui.
J'ai l'impression qu'il n'a pas du tout envie de se faire évaporer.
Heureusement. Mais enfin, ça me rappelle au niveau de la jeunesse que souvent, à la vingtaine, on sort des textes époustouflants.
D'accord. Et donc Michel Alexandre qui va faire la mise en scène. Donc je vous ai parlé un petit peu de lui avec un parcours. Voilà, j'ai presque un tout petit peu envie de dire d'où il vient, mais bon, je me dis que les gens
dites-le, parce que le suspense est insoutenable.
Mais est-ce qu'on a le droit en fait de parler des autres? Moi, je me dis,
ça
si j'entendais
de
quelqu'un
façon.
Parler de moi, est-ce que je dirais ben de quoi il se mêle celui-là? Et donc, comme je vais travailler avec Michel, je me dis que s'il m'entend et qu'il dit de quoi il se mêle, je serais embêtée quand même.
Mais peut-être que c'est intéressant de connaître un peu plus son parcours, et puis on vous recevra peut-être ensemble. Quand vous serez en pleine
Il a
pièce.
Eu de tout autre métier avant et notamment et je crois que c'était pas son tout premier métier dans son ses tout premiers métiers il faisait des choses, des enregistrements, des radios libres où petit à petit ça s'est retrouvé dans des histoires de mariage où il filmait les mariages ou je sais pas quoi en vidéo et du coup ils ont dû monter une petite boîte de prod ou je sais pas quoi. Et quelque chose a fait que un pur hasard. Ah ouais, je crois même qu'il a fait des études de pharmacie et en tripotant des petites boîtes, il s'est dit mais je vais pas tripoter des petites boîtes toute ma vie, ça va me gaver. Et donc quelque chose, un espèce de hasard, l'a mis sur des histoires de concours de police ou je sais pas quoi. Et voilà. Et il
ah oui,
a
il
passé...
a fait la boule de flipper quoi. Il a rebondi sur plein de métiers.
Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il a passé un moment dans la police avec une vie sans horaire, une vie en équipe.
Il était inspecteur.
Où il n'y a pas de début et pas de fin. On finit quand c'est terminé, on va se coucher. Mais tant que c'est pas terminé, on va pas se coucher. Et voilà. Donc, des années comme ça. Et puis, je crois que c'est Bertrand Tavernier qui, à un moment, lui a tendu la main pour écrire quelque chose et j'ai eu la sensation que c'est écrire quelque chose, oui, bon, il a tenté le coup d'écrire 10 pages et puis ça l'a fait, basta.
Il s'est laissé emporter par son écriture et ça a donné cette pièce.
Je vais pas dire,
ce sont
je vais
des
pas
sketchs.
Parler pour lui, moi.
C'est
moi.
Quoi, ce sont des séries de nouvelles?
Ah non, parce que là, moi, je parle de Michel Alexandre, là, je
d'accord.
ne parle pas de Florian Hessic. Je parle du chemin de Michel Alexandre qui, donc, de petit garçon ou jeune homme qui fait des trucs enregistré, vidéo, machin.
A évolué.
Puis des boîtes de pharmacie.
Et maintenant.
Et puis police. Et puis quelque chose, un bras tendu qui fait qu'il écrit un truc. Et puis maintenant il fait une mise en scène et de la comédie musicale, je crois, parce que sans doute ça lui plaît, parce que aussi au cinéma il y a des gens qui gagnent des milliers de cents et que c'est peut-être pas son trip de passer ses journées avec des gens qui gagnent des milliers de cents, j'en sais rien moi. Je sais pas, je vous donne un truc.
Mais
comme
je
ça,
pense que s'il en est à plusieurs métiers, c'est qu'il fait que ce qu'il aime.
Bah moi je vous ai dit tout à l'heure, hein, dans la mer il y a des courants froids qui ne dépendent de rien. Je pense que on peut faire plusieurs métiers et pourtant être en train de faire la même chose.
Moi j'en ai ça, six c'est... derrière moi, je fais
voilà.
Six métiers.
Donc ah bah
je
voilà, sais, vous oui. Voyez. Donc moi je sais pas qu'est-ce qui fait que ce monsieur est passé d'un truc à l'autre. On interprète toujours par rapport à ce qu'on vit soi-même. Moi je sais que quand je fais de la médiathèque ou de la résidence à Chambord ou quand je suis sur un plateau en tant qu'actrice ou quand je fais mes commissions où on distribue de l'argent pour des scénars ou pour des opéras.
Parce que vous êtes président de trois commissions, on va en parler après.
Pas présidente, moi, présidente.
Non,
jamais.
Pardon, jury.
Non, je fais partie de commissions où j'étudie des projets avec un grand, grand bonheur, carrément. C'est un bonheur de voir les choses de haut, de pouvoir étudier des cinquantaines de projets et de se dire comment les jeunes, comment ils ont l'élan pour des choses, comment ils écrivent et comment ils expriment l'élan pour leurs choses, comment les vieux d'aujourd'hui se démerdent à exprimer déjà, enfin les vieux, les gens plus âgés, les gens qui se sont exprimés dans des... je veux dire, on n'était tellement pas dans la même période quand ces gens avaient 20 ans et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, comment ces gens qui continuent à proposer des projets, comment se sentent-ils parmi les jeunes qui proposent leurs trucs en sachant, même s'il n'est pas question forcément de technologie, ce sont des jeunes qui savent magouiller les portables, qui savent magouiller tout ce qu'on peut magouiller aujourd'hui quand on est jeune.
Et ils sont ces débrouillards, gens, vous voulez dire.
Débrouillards avec des trucs que nous, on ne sait pas faire, quoi. Et j'ai constamment conscience, quand je lis des projets qui viennent de gens qui ont 60 ans aujourd'hui ou 70 ans, et que je lis des projets de gens qui ont 20 ans, j'ai constamment conscience d'une différence absolument phénoménal, non pas forcément dans ce qu'il propose. Je veux dire, t'as pas forcément un jeune mec qui va me proposer des trucs technologiques infernales dans son projet, et une personne beaucoup plus âgée qui va n'en pas du tout proposer. C'est surtout, ils vivent dans deux mondes totalement différents, en essayant de se rejoindre. Et j'ai des projets qui viennent de ces deux pays-là si différents et qui sont écrits un petit peu de la même manière pour avec le même élan au sein de la même commission pour se faire juger par des gens qui vont accepter ou non leur projet. J'ai l'impression de voir les choses du dessus et c'est fait comme vu d'avion et ça me transporte parce que ça me fait réfléchir à mon métier d'actrice, ça renverse ma vision de mon métier d'actrice,
Dominique Fro.
Ma sensation quand j'arrive sur le plateau, etc.
Je propose que nous fassions un petit détour vers une musique que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle The Kiss, qui est tirée du film Le Dernier des Mohicans.
D'accord.
Et on va justement rebondir après. On sait juste cette petite pause musicale. Vous êtes bien sur Radio Anguin IDFM 98, la radio du bien-être. Eh bien, de bien-être, on va en parler. Et en attendant, moi, je vous laisse écouter The Kiss.
The Kiss. Thank you.
Vous êtes en direct sur Radio Anguin, IDFM 98, la radio du bien-être. Vous êtes dans l'émission Étincelle et nous recevons ce soir Dominique Fro pour ce dernier quart d'heure ensemble. Dominique, vous aviez à nous rajouter des éléments complémentaires par rapport à la production, c'est-à-dire au théâtre, à la pièce de théâtre qui va se jouer à partir de septembre.
Alors je dis un peu vite parce que il y avait d'autres points qu'on s'était dit qu'on aborderait. Alors je fais un peu vite. La pièce s'appelle Le bonheur au quotidien. C'est au théâtre d'Onou, ça sera à partir du 6 septembre à 19h, du mardi au samedi, si jamais ça marche bien, peut-être ils rajouteront le dimanche, et parce que le dimanche après-midi, moi j'adore aller au théâtre. L'auteur c'est Florian Essick, et Florian est un ancien basketteur, pareil, hein, j'aime bien les gens qui...
Beau gosse alors
qui viennent pas, il est assez joli, ouais. qui viennent pas seulement du cinéma, tout ça. Et il a fait un film sur le basket, d'ailleurs, qui s'appelle La Légende. Et il a fait également un film qui s'appelle Le Casse des Casses. Voilà, donc il a réalisé deux films. Voilà, je peux pas parler davantage de Florian. Il a écrit ça, ça m'a fait très plaisir de lire.
Il y a une partie musicale aussi.
Ce sont des sketchs, hein, ce sont une dizaine de sketchs qu'on peut résumer de la façon suivante. Pendant plus d'une heure, ces multiples personnages, il y a donc de multiples personnages contemporains que nous jouons tous les deux, Florian Essick et moi, Dominique Fro, mais ces personnages mettent le doigt avec humour sur les absurdités et aberrations du quotidien de monsieur et madame tout le monde. Ce duo cynique à l'humour grinçant revisite les travers de la société. Voilà ce dont il s'agit. Et la lumière est faite par Antoine Sorin, la musique par Philippe Gouadin, les costumes par Edith Vesperini.
Ah, j'ai cru que vous alliez dire Roger Hart. Mais non, nous ne sommes pas au théâtre ce soir, je vous taquine.
Alors sinon, pour parler un petit... Je voulais dire bonjour à des copains, et je pensais à Ayette, je pensais à Laurent, voilà. Après, je dis pas leur nom comme
ils
ça.
Ils vont se reconnaître, pourquoi pas?
Non, parce que comme ça, ils se diront c'est moi ou c'est pas moi. Ayette, c'est bon, elle se reconnaîtra, il n'y en a pas 36. Hein, j'en connais d'autres. Hein. Et puis tiens, j'ai eu mon frère au téléphone ce matin. Salut Jacques, salut. Et votre sœur? Ma sœur Catherine, salut Catherine. Kat, comment vas-tu Kat?
Camille aussi?
Camille, oui, Camille. Et non, je pensais encore à quelqu'un d'autre tout à l'heure.
Séverine,
voilà. Quand je me suis reposée pendant la musique, c'était à Séverine que je pensais. Salut Séverine, elle nous écoute en plus, je crois.
Ah bon, on la salue.
Voilà, c'était Séverine, c'est vous qui l'avez dit, heureusement. Quand je me suis relevée de par terre, je me suis dit, mais merde, je pensais à quelqu'un, c'est la première personne à qui j'avais pensé.
Donc tout c'est d'un Séverine.
Coup, elle était partie. Et bon, voilà, je vous ai dit, ça commence le 6 septembre et c'est à 19h du mardi au samedi au théâtre d'Onou. Et normalement, ça dure plusieurs semaines. Hein.
Alors, vous avez deux films en développement.
Oui, voilà, dont je suis le développement, parce que j'aime bien pas seulement les trucs où t'arrives au dernier moment. Là, voilà, ce sont deux personnes qui se sont tournées vers moi, deux producteurs, dès le départ de la chose. J'ai rencontré Marvin Sitter, le futur réalisateur de Enfer et Pouvoir, qui me fait un petit peu penser à ce film qu'a réalisé, ce film absolument magnifique de Benania, alors son prénom Kauter Benania, qui s'appelle La Belle et la Meute. Il y a d'autres films.
Ah oui,
films.
Qui est passé à Cannes l'année dernière.
Ouais. Donc
c'est un film marocain, je crois.
Oui, c'est ça. Ouais. Et le scénario de Marvin, qui est très très intéressant, m'évoque un petit peu ça. J'ai pas préparé de résumé. C'est le sujet. Ce sont les femmes dans les entreprises et
c'est tout un programme.
Les hommes dans les entreprises, c'est aussi la dignité, c'est-à-dire tout ce qui peut nous tomber dessus et comment un être humain, face à tout ce qu'il peut lui tomber dessus, ne se laisse pas écraser, mais au contraire, fait un bras de fer avec le négatif pour le tourner en positif.
Et là encore, ça fait partie de vos valeurs humaines. et bienveillante du tous ensemble et de la résilience aussi.
Ouais, ouais, de la dignité et de ce constat qu'on peut faire tous les jours à soi-même. Putain, mais jamais je m'écraserai, non.
Vous savez, je suis allée il y a...
Attendez, j'ai pas fini. Jamais je m'écraserai. J'ai l'impression toute ma vie, moi, d'avoir fait le bras de fer avec des choses qui pouvaient vraiment me foutre en l'air, quoi. Et putain, jusqu'ici, hein, j'aime bien le mot putain. Pourtant, c'est pas joli, mais...
Dans votre bouche, ça sonne bien.
Hein, mais putain, je suis pas une putain. Et j'aime les putains, en plus, hein. Je veux dire, je les admire, et je vois bien comment j'aurais pu le devenir aussi, hein. Parce que finalement, ce job, c'est un job. Moi, je pourrais pas le faire, mais c'est un job. Je sais pas. On en parlera une autre fois. En tout cas, ouais, combien de fois dans ma vie j'ai pu voir que j'avais fait le bras de fer avec le négatif pour le tourner en positif. Et il y a des fois, c'est étonnant. Et là, dans ce film, t'as une femme, elle a à peu près tout ce qu'il faut pour être
bien dans la vie.
Heureuse. Mm-hmm. Mais non, pas des mille et des cents du tout, hein. Et tout d'un coup, tout disparaît. Et au moment où tout disparaît, en plus, tout se révèle. Des choses terribles se révèlent. Et ce terrible, au lieu de l'enfoncer, descendre de plus en plus bas, l'a fait naître de plus en plus haut.
Quel est le titre de ce film qui va sortir ?
Enfer et pouvoir.
Ah oui, ça porte bien son nom. Ça me fait penser à une phrase que je voulais vous citer tout à l'heure.
Il ne va pas sortir, il n'est pas encore fait. Hein.
Donc il va forcément sortir un jour.
Oui, voilà.
Il est en cours de développement. Ouais. Il y a cette phrase très belle qui m'a marquée. J'ai vu il n'y a pas très longtemps et ça m'a tellement plu que je l'ai mis sur un petit tableau à la craie dans ma cuisine. Le matin, je me lève de bonne heure avec le mot bonheur.
Ah, c'est le matin, je me suis toujours levée de bonne heure. C'est qui ? C'est Proust ?
Alors, bonheur, je ne saurais pas vous dire. J'ai vu ça sur un mug et j'ai trouvé ça tellement joli comme phrase.
Ah oui, bonheur. Ah, là, je me lève de bonne heure et de bonne heure, c'est le même mot que bonheur.
Exactement.
Oui, j'avais pensé. Souvent, on a les mêmes mots et on ne fait pas le lien. On se rappelle un jour que oui, ça me fait souvent ça.
Je trouve que c'est joli.
Alors vous avez vu cette phrase et vous l'avez marquée.
Je l'ai marquée.
De bonheur.
Le matin, je me lève de bonheur.
D'accord. Je crois qu'il y a un des trucs de Proust, là.
Et quand je me prends mon petit café, je vois cette phrase, je me dis, c'est vrai.
Mais je crois que c'est la recherche du temps perdu qui commence comme ça, non ? Je ne sais plus.
Est-ce que je peux vous ramener au banquet final aussi, puisque c'est un film en développement, ou c'est une pièce
non,
en développement ?
Non, c'est une pièce. Là, ça vient d'arriver, une jolie pièce. Donc, je peux vous faire... c'est le soir de la fin du monde, alors que certains sont partis sur un bout de plage pour mourir devant un joli panorama. Les 7 voisins d'un immeuble ont décidé d'organiser un dernier banquet ensemble. Même s'ils ne s'entendent guère, le but étant de ne pas en finir seuls. Mais un 8e convive s'invite. Ils ignorent qui il est, mais lui les connaît tous. C'est une tragicomédie de Julien Wagner que l'on devrait retrouver à la rentrée de 2019. La distribution est en cours, mais on devrait y retrouver Jean-Claude Dreyfus, Chantal Neuwirth, Dominique Fraud, Marion Huguenin, Réginald Huguenin, Sylvain Urban et Victor Pontecorvo. J'ai lu le texte, on peut dire, je ne l'ai pas lu 36 fois, mais je l'ai lu beaucoup de fois. Je l'ai lu beaucoup de fois parce que je suis comme ça.
Vous allez au fond des mots.
C'est pas forcément ça. Quand je lis un texte, c'est pour bien autre chose que de répondre oui, je suis intéressée en tant qu'actrice ou non ou et merde ce truc c'est super mais ça va pas marcher. Non, je lis du côté de l'auteur, c'est-à-dire je me mets dans la peau de l'auteur et je me dis il a un espace qu'il a voulu partager. Et qu'il a bien accepté également de réduire pour que cet espace passe dans les filtres. arrive à passer le mur de là où une population vaste peut l'entendre. Donc à la fois il a été chercher un truc à 360 degrés et à la fois il a accepté de réduire ce 360 degrés de façon à ce que ça passe dans le filtre. Et c'est ça qui m'intéresse quand je lis un mec. C'est-à-dire, non pas d'abord le rôle, le machin, le truc, m'intéresser à, ouais, bon, je vais jouer un truc, ça va pas le faire, cette histoire, il y aura pas de public pour cette histoire. C'est pas d'abord ça que je vois. J'écoute d'abord le mec, qu'est-ce qu'il a, quel était l'élan monumental qui l'a poussé à écrire, parce que écrire, ça veut dire être tout seul, entendre le silence, affronter des peurs et des joies qu'on n'affronte pas tous les jours.
Et c'est aussi,
et ça, c'est pas facile.
C'est une sorte de catharsis aussi, puisqu'on sort soi-même.
C'est une, je sais pas comment j'appelle ça. Vous avez des mots pour les dire. Moi, j'oserais pas prononcer le mot catharsis. C'est un mot qui appelle à tellement de discussions.
Mais écrire nous met dans un état très particulier, qui nous met dans une profondeur, qui non seulement fait appel à nos forces vives, mais nous occupe et nous fait créer des personnages. C'est quelque chose de complètement fou d'écrire. Il faut de la disponibilité pour écrire.
Moi, je pense que écrire, je suis d'accord avec vous, mais je dis surtout, écrire, à mon avis, ça fait peur, parce qu'on fait face à des choses...
profondes.
À des choses... Oui, profonde ou des lucidités sur le monde, sur entre le singulier et les autres, on fait face à des choses. Je pense pas qu'on puisse écrire sans risquer une lucidité qui amène à des rires profonds. Je pense que l'humour, il vient d'une lucidité phénoménale. Il y a bien sûr pour moi Coluche, quand il tchatchait, quand il écrivait, à mon avis, et j'en ai marre de dire à mon avis, pour lui, j'ose le dire, il y avait une lucidité phénoménale, quasi intenable, je pense.
Dominique.
Et donc, je veux bien croire que certaines choses que je lis viennent d'une lucidité phénoménale et que les jeunes gens ou les plus vieilles gens qui écrivent sont entre cette lucidité qui est sœur de la joie parce que quand je m'arrête là parce que sinon ça se terminera jamais. Sœur de la joie, absolument. Quand on a une lucidité phénoménale, on a aussi la sensation de pourquoi une certaine joie est quelque part interdite. Et surtout, c'est pas qu'elle est interdite, c'est que les mots, les dialogues l'empêchent de passer. Oh merde, alors, merde, alors.
20 secondes, alors, on a quasiment fini.
Il reste une racaille sur le palier de Anthony Hickling. C'est
comme la copie. On rend ça sa copie. On est obligé d'arrêter. Merci infiniment, Dominique Fro. Vous serez, bien sûr, la bienvenue pour une autre émission. En attendant, comme toujours, je vous dis, je vous aime et à la semaine prochaine.
Vous écoutez IDFM, il est 22h.